11e émission, le Zen. Le Bouddha parle, bien qu'il ne parle pas. Le disciple entend, bien qu'il n'entende pas. Un moine demande à son précepteur « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Réponse « 1 kilo de chanvre. » Le précepteur dit à l'assemblée des moines « Si vous avez une canne, je vous donne la canne. Si vous n'avez pas de canne, je vous arrache la canne. » Lorsqu'on frappe des deux mains, on entend un son. Quel est le son d'une seule main ? Un moine demande au supérieur « Je viens d'entrer dans votre monastère. Enseignez-moi, maître. » Le supérieur répond « As-tu déjà mangé ta bouillie de riz ?» Le moine dit « Oui, maître. » Le supérieur « Va laver ton bol. » Le moine comprit. « D'où vient le son de la cloche ? De la cloche elle-même ou du vide à l'intérieur ?» Voici quelques exemples de koan à associer à ces petits poèmes qui servent d'exergue à chacune des émissions, comme celui-ci. Sur la pointe d'une aiguille, faire un saut périlleux. L'explication du mot japonais koan est donnée dans un ouvrage sur le bouddhisme dirigé par Lillian Sidburn. Le mot japonais koan vient du chinois kong ngam. Kong veut dire public, ngam désigne les tablettes déposées devant le juge et qui constituaient les pièces du procès. De là, glissement vers la pratique du bouddhisme zen. Question paradoxale, voire absurde, posée à un disciple à un moment adéquat de son évolution afin de créer en lui un choc qui le mette sur un autre plan que celui du mental. C'est la hache qui tranche la racine du devenir, dit-on. Le disciple doit méditer sur un koan jusqu'à ce qu'une certaine lumière jaillisse. Il passe alors à un autre koan. Le maître choisit le koan en fonction des aptitudes du disciple. Comme le chan, devenu zen, le koan prend sa source en Chine, mais c'est au Japon qu'il est resté vivant après l'introduction du zen. En fait, la méditation, zen, était pratiquée dans presque toutes les écoles du bouddhisme japonais, plus chez les adeptes du Shingon, le bouddhisme ésotérique, ou du Tendai, qu'au sein de l'amidisme. Mais c'est surtout à partir de l'époque de Kamakura que le zen, pour reprendre l'analyse de Jacques Boros, qui est un des principaux enseignants zen en France, marqua d'une empreinte indélébile la civilisation, la mentalité et la vie quotidienne japonaise. Le pouvoir était entre les mains de militaires qui s'étaient installés loin de Kyoto la raffinée, où l'empereur n'avait plus qu'un pouvoir symbolique. Voir dans l'engouement des nouveaux dirigeants un anti-intellectualisme est allé un peu loin, mais il apparaît évident que la radicalité et le dépouillement du zen convenaient à ces guerriers. La non-pensée, munen, est une des clés des arts martiaux, le bushido. On sait que le fin du tir à l'arc est de pouvoir atteindre la cible les yeux fermés. Quant aux samouraïs, ils ne doivent pas être embarrassés par leur mental. Ils doivent éveiller en eux l'instinct le plus profond qui leur permet de devancer le geste de leur adversaire. Le lien entre un moine pacifique, assis en méditation, dans la plus grande immobilité, et un combattant dont le dessein, pas toujours, mais parfois, est de faire jaillir de son adversaire une gerbe de sang qui ressemblerait à des pétales de pivoine s'affaissant après la floraison, pour reprendre une image japonaise, ce lien n'est pas évident pour nous. Il l'a été au Japon. Le lien est celui de la concentration et de l'éveil d'une nouvelle conscience. Je n'ai pas dit que les moines étaient bellicistes, j'ai dit que le pouvoir militaire a favorisé l'expansion du zen. Nous avons connu cela chez nous. Yōsai peut être considéré comme un des premiers à avoir introduit le zen au Japon. Né en 1141, il fut moine de l'école Tendai sur le Hiei, qui était un des plus grands centres du bouddhisme. Il étudia également le bouddhisme Shingon avant de se rendre en Chine une première fois en 1168 puis en 1187. Il y resta alors 4 ans. De retour au Japon et grâce à l'appui du shogun de Kamakura, il put fonder 2 monastères zen sans rompre avec le Tendai et le Shingon. C'est dans un de ces 2 monastères, près de Kyoto, que Dogen, un des plus grands maîtres du Japon, resta 9 ans auprès du successeur de Yōsai. Né en 1200, Dogen appartenait à une famille de la haute aristocratie. Sa sœur épousa même un des empereurs du Japon. Peut-on trouver les sources de sa vocation dans la tragédie qui l'a frappé alors qu'il était encore enfant? À 2 ans, il perd son père. À 7 ans, sa mère. Jacques Brosse cite son biographe. Lors des funérailles de sa mère, l'enfant, en regardant s'élever la fumée de l'encens au-dessus du temple où elles avaient lieu, prit conscience de l'impermanence de la vie. Dès lors, se manifesta en lui l'esprit d'éveil. Il devint moine sur le mont Hiei, puis dans le monastère fondé par Yōsai. Et enfin, initiation habituelle, il se rendit en Chine en 1223. Il n'est pas satisfait par l'enseignement qu'il reçoit. Il erre, cherche un maître, un autre, et puis il en trouve un, qui s'incline même devant lui, considérant qu'il avait atteint l'éveil. De retour au Japon, Dogen doit lutter contre des rivaux avant de pouvoir trouver un lieu de paix sur le mont Eihei, dans la région montagneuse de Fukui, à l'écart du monde. Il renonce à ses tentatives syncrétistes en se consacrant à la méditation assise, Zazen. C'est là qu'il fonde une des 2 branches principales du Zen, le Zen Soto. L'autre branche étant le Zen Rinzai, fondé auparavant par Yōsai et qui attache une plus grande importance à l'usage des koans. Autre différence, dans l'école Soto, pendant la méditation, les moines ou élèves sont assis face au mur, dans le zen Rinzai, face à l'allée centrale. Cela a un sens, le Soto pratique une coupure plus nette. Zazen, méditation assise, est le terme utilisé pour distinguer la technique méditative qui varie selon les écoles, mais dont la finalité est toujours la même, dépasser l'emprise du mental et, si possible, atteindre la nature de Bouddha, que chacun porte en soi. Dogen a défini les points essentiels du zazen, 7 points que j'emprunte à Philippe Cornu. Alors résumons ces 7 points. Pour celui qui est avancé dans la pratique de la méditation, on peut éventuellement pratiquer le zazen, soit dans des lieux bruyants, soit même dans des foules, pourquoi pas dans une gare, dans un aéroport. Mais au départ, il est évident que pour atteindre l'apaisement de l'esprit, il vaut mieux avoir un lieu paisible et silencieux. Et très souvent d'ailleurs, dans les temples zen au Japon, ce sont des lieux qui sont entourés de la nature. Deuxièmement, s'asseoir sur un coussin rond. Cela permet effectivement de soulever un tout petit peu le buste et de faire en sorte que les genoux soient un tout petit peu plus bas. Troisièmement, prendre la posture du lotus ou du semi-lotus. La posture du lotus est difficile pour quelqu'un qui n'est pas initié. Il s'agit de mettre le pied droit sur la cuisse gauche et le pied gauche sur la cuisse droite. C'est la posture que l'on voit sur les statues du Bouddha. Mais si on n'y arrive pas, il est très possible d'adopter la posture dite du semi-lotus, c'est-à-dire qu'il n'y a que un des 2 pieds qui se trouve sur la cuisse de l'autre côté. Quatrièmement, se tenir avec le dos bien droit. Quand on assiste à des méditations dans des centres occidentaux, on voit tout de suite ceux qui ont été initiés par le zen. Ils se tiennent vraiment très droit. Cinquièmement, la langue doit être contre le palais, les lèvres et les dents sont jointes et les yeux restent ouverts. Alors là, c'est un point important parce qu'effectivement, dans d'autres écoles, les yeux sont fermés. L'avantage des yeux ouverts, c'est que l'on peut regarder le monde tel qu'il est et de là, essayer de constater son impermanence. Les yeux fermés permettent un repli plus profondément sur soi, mais justement, il y a toujours le risque d'aller prendre son intériorité comme quelque chose de très important, d'être chaud avec soi-même. Or, pour le zen, il s'agit de rester néanmoins en contact avec le monde extérieur, ce monde considéré comme impermanent, mais qui possède une réalité relative. Sixièmement, il s'agit d'expirer profondément par la bouche entrouverte et d'inspirer par le nez. Ces techniques de respiration viennent de très très loin et elles restent pratiquées encore dans d'autres religions, notamment dans l'hindouisme. Et le fait d'aller au plus profond dans l'expiration et au plus profond dans l'inspiration se fait au fur et à mesure. Au début, on reste très crispé quand on veut encore faire ressortir de l'air, puis encore, encore et encore. Mais je me répète, il ne s'agit pas justement d'être crispé. Donc tout cela doit se faire sous la conduite d'un maître et doit se faire toujours peu à peu. Et le dernier point, il s'agit de maintenir une respiration souple, donc elle doit devenir naturelle, même si elle est beaucoup plus profonde que ce que l'on pratique dans la vie courante. Et puis, il s'agit de ne pas penser, on n'y arrive pas, c'est connu. Si une pensée arrive malgré tout, on la suit, on considère qu'elle est éphémère, on la suit jusqu'à ce qu'elle disparaisse et on essaie de faire en sorte, les yeux ouverts, de regarder le monde et que le mental ne soit pas là comme un écran entre soi et le monde extérieur. Dogen a laissé des ouvrages en chinois, mais l'essentiel de sa pensée a été écrit en japonais, principalement le Shobo Genzo, trésor de l'œil de la vraie loi, que certains considèrent comme le texte le plus important de la philosophie bouddhique japonaise. Retour en arrière. N'oublions pas que ce bouddhisme zen, qui au XXIe siècle laisse sa marque sur les mentalités et l'esthétique des cinq continents, a été transmis en Chine par le moine indien Bodhidharma, qui aurait débarqué à Canton le 21 septembre 527 et aurait rencontré à Nankin Sa Majesté l'empereur du pays du milieu, avec lequel il eut ce dialogue qui peut être considéré comme un des premiers koans, en tout cas comme une bonne leçon de bouddhisme. L'empereur, depuis le début de mon règne, j'ai construit tant de temples, copié tant de textes sacrés, aider tant de moines. Selon vous, quel est mon mérite ? Bodhidharma. Aucun mérite. Et pourquoi donc ? Ce ne sont là que des actions inférieures. Elles portent encore la marque du monde et sont comme des ombres qui suivent les objets. Une action vraiment méritoire est remplie de pure sagesse, parfaite et mystérieuse. Sa nature réelle est au-delà de la portée de l'intelligence humaine. L'empereur. Alors quel est le premier principe de la sainte doctrine ? Bodhidharma. Rien ne peut être qualifié de saint dans le principe qui est, par définition, vaste et vide. Qui donc est celui que j'ai en face de moi ? Je l'ignore, Majesté. Comme souvent dans l'histoire des religions, des débuts avec de l'audace, de la créativité, ce qu'en d'autres temps on nommerait du romanesque. Et puis ensuite, querelles et routines dominent la scène. Le zen tend à perdre sa vitalité sous des lourdeurs administratives. Les persécutions de 1564 qui s'abattent sur le bouddhisme affaiblissent les écoles. Mais avec l'arrivée des Tokugawa et la période d'Edo, 1603-1868, Ieyasu aide les monastères à se relever tout en instaurant un système de contrôle administratif. Peintre, calligraphe, penseur, Hakuin 1686-1769, va s'efforcer de revitaliser le Zen Rinzai qui vivotait dans la routine. Son père était un samouraï. Un jour, écoutant un sermon dans un temple de l'école Nichiren, l'enfant fut terrorisé par l'évocation de l'enfer. Il décida alors de devenir moine zen. Ses angoisses ne le quittaient pas. Il s'adonna à la lecture des poètes chinois et à la calligraphie. Enfin, à 22 ans, il crut connaître un premier éveil. Mais les angoisses, les maladies et la fixation sur la résolution de koan continuaient à le perturber. Ce n'était pas l'éveil. Il devint moine errant. Un jour où il demandait l'aumône, il fut jeté à terre, ce qui lui permit de franchir un degré de plus, si l'on peut dire, dans la compréhension du bouddhisme. Mais rien n'était joué. Un autre jour, il tomba dans l'eau et fut pris pour un fou tant il riait. Une autre fois, il saisit quelque chose de subtil en entendant le bruit des flocons de neige qui tombent. Il fut vénéré. Beaucoup de disciples l'entourèrent. Il enseignait, il écrivait, il peignait. Avec l'âge, il sentit que son art atteignait son plein épanouissement. Entre 80 et sa mort, à 83 ans, il peignit davantage que pendant tout le reste de sa vie. Il laissa de nombreux disciples après avoir renouvelé en profondeur la pratique du koan. Quel est le bruit que fait le claquement d'une seule main ? Chanoyu, la voix du thé, renouvelée par le grand maître que fut Senno Rikyu, est fortement marquée par l'esprit du zen. Concentration et sobriété, sens donné au geste apparemment le plus simple. Trois principes doivent, selon lui, présider à son déroulement. Shu, protéger. Ha, briser. Ri, aller au-delà. Même empreinte du zen dans l'art floral, Ikebana, et bien évidemment dans ces jardins de méditation que furent les petits jardins des temples, particulièrement les jardins secs, qui sont la représentation du monde. Ne pas y voir des symboles, mais une réalité nue, sans concept, une pierre dressée ou du sable ratissé susceptible de nous conduire vers l'illumination non mentale. Rien de métaphysique, c'est du physique agissant. Parler devant un jardin sec mériterait comme punition d'avoir à lire la totalité des œuvres de Hakuin. La forme ramassée du haïku exprime la fulgurance d'une image ou d'un sentiment lié à la nature. Souvent, les haïkus servent de support dans la méditation du zen. Ils sont sans parole, l'hôte, l'invité, et le chrysanthème blanc, Basho. À celui qui la poursuit, la luciole offre sa lumière, Otomo Oemaru. Étincelle d'eau sur la mousse, ô corps aimé, devenu poussière, Oetomatsu.